Je vais vous présenter un petit peu ma recherche en cours. Je suis parti de l'idée, justement pour ce colloque, de voir si, dans les mots des romans, donc dans la façon de penser la violence à Rome, il y avait un lien, il pouvait y avoir un lien avec les jeux. Et comme j'ai une formation philologique, pour moi, la chose la plus importante, ce sont les mots. Et donc, j'ai cherché un petit peu si dans les mots du vocabulaire roman, il y avait quelque chose là-dessus. Et disons, la première chose que j'ai remarqué, c'est justement le rapport entre violentia, violentus et d'autres mots qui viennent de la Rome antique, qui ont donné les noms modernes pour penser, pour dire la violence. Et en particulier, la deuxième remarque qui m'est paru très, très, très pertinente, surtout en comparaison avec d'autres langues, les rapports qu'il y a en français entre le mot violence et une certaine typologie de violence, c'est-à-dire le viol. Et ce qui n'arrive pas, par exemple, en italien ou en anglais, il n'y a pas cette connexion étymologique. Donc pour moi, c'était très important. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe dans le monde roman? Est-ce qu'il y a un rapport avec tout ça? Et en lisant un petit peu la littérature critique et scientifique sur ces sujets, j'ai trouvé une sorte de contre ou hypothèse alternative de l'origine du mot violence et violentia qui a été donnée dans les années 70 par un philologue allemand qui s'appelle Merkel Bach et qui écrit un petit article d'une demi-page où, sans aucune pièce d'appui, il dit en fait qu'en réalité le mot violence, violentia, ça vient pas de vis mais de viola, donc de la fleur. Et il cite un Carmen de Catulle, le Carmen 62, où il y a toute une métaphore du viol qui passe par les mots de la, disons par les mots du domaine de la végétation. Encore aujourd'hui, déflorer, c'est un synonyme, disons, de violer, mais un synonyme, disons, de poétique ou stylistiquement élevé. Et donc lui, à partir de ce jeu de mots que Catulle fait, il dit ça pourrait être le mot violentia dérivé de viola, donc déflorer une femme, et voilà. Bien évidemment, malgré le fait que cet article paraît dans une revue très réputée comme Glotta, il n'y a pas véritablement de suite, parce qu'il ne peut pas prouver cela. Mais c'était aussi une façon de mettre en question une certaine typologie d'aborder ces sujets, une typologie plutôt lexicographique, comme je l'annonce aussi dans le plan de ma recherche. Normalement, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais disons dans les dernières décennies, on fait encore une recherche sur les mots latins du type lexicographique. On cherche une sorte de sémantique historique et on ne se pose pas véritablement la question de ce que ces mots voulaient dire, dans quel contexte ils étaient utilisés et surtout quelle expérience ils pouvaient transmettre. Et c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu dans les outils contemporains de la sémantique qui se pratique aujourd'hui, surtout en rapport avec les études cognitives, donc l'anthropologie cognitive et la linguistique cognitive, pour voir s'il y avait des façons un peu différentes d'aborder la sémantique d'un mot. Et donc le champ que j'ai ouvert, c'est justement le champ du ludere et de deux mots, en particulier deux verbes, illudere et deludere, qui, comme vous le voyez, tirent l'origine du verbe ludere à travers deux préfixes, in et de, et qui n'expriment pas l'illusion. Par exemple, si vous regardez dans l'exemplier que Tiffen Aziza a montré, dans la définition de Caillois, sous la catégorie mimicry, il parle de inlusio. Donc, il laisse entendre en fait que dans le monde latin, ce terme-là, c'était une sorte de. C'est un synonyme pour dire illusion, pour dire fiction, comme s'il n'y avait pas de différence. Et je crois que la recherche que je suis en train de mener montrera que le monde latin, ce n'est pas seulement une étape antérieure de notre culture, mais c'est une autre culture. Et donc, ce n'est pas forcément juste de projeter des mots en arrière. Donc, illusio, oui, bien sûr, il a aussi la valeur en latin de, disons, créer une fiction, mais il y a toute une deuxième partie de l'entrée illusio, illudere, qui est liée à la violence, et en particulier à la violence sexuelle et au viol, comme j'espère démontrer pas forcément aujourd'hui, mais dans la suite de mes recherches. Et voilà donc le cadre que j'ai adopté. Vous connaissez peut-être ce texte de Lakoff et Johnson. C'est un texte qui s'appelle « Metaphors we live by », qui a été traduit en français comme « Les métaphores de la vie quotidienne ». Et c'est un texte très fameux parmi les psychologues et les anthropologues aussi. Et ça commence aussi à influencer, heureusement, certains antiquisants, surtout des philologues. Et la, disons, l'élément principal de ce livre, c'est de concevoir la métaphore de toute autre manière par rapport à ce qu'on disait normalement, c'est-à-dire la métaphore, c'est un outil rhétorique, stylistique, ça sert à exprimer d'une certaine façon plus haute ou plus poétique un concept, mais selon l'approche de Lakoff et Johnson, la métaphore, c'est un outil cognitif, ça, c'est une technique de pensée. Et il arrive à dire qu'on structure des domaines de la réalité, surtout des domaines les plus abstraits, à partir d'autres domaines de la réalité qui sont plus concrets et qui font l'objet d'une expérience, normalement. Et donc, il se rattache aussi aux théories de l'expérience incorporée, donc la connaissance du monde passe pas seulement par les cerveaux, mais par une expérience totale du corps, et donc il y a toute une série de théories cognitives qui sont derrière ce livre. Et la théorie de base, c'est que la métaphore cognitive, ou ce qu'il appelle la métaphore culturelle, c'est une façon de concevoir un domaine dont on n'a pas forcément d'une manière directe l'expérience. Et pour vous donner un exemple que je tire du monde latin, il y a un groupe de recherche qui travaille là-dessus sur la métaphore culturelle dans le monde latin. C'est un groupe qui se trouve maintenant à Exeter, en Angleterre, et qui est guidé par William Short, qui est un latiniste qui a longtemps travaillé sur la sémantique latine, et en particulier sur les prépositions. Il a notamment étudié la préposition « de », mais en utilisant cette approche cognitiviste. Et ici, vous avez un chapitre d'un livre collectif sur la culture romaine, c'est un chapitre sur la métaphore. Et ici, vous voyez, il a, je m'excuse, c'est en anglais, mais il n'existe pas de traduction française encore. Mais... Et donc, ici, vous voyez qu'il a analysé ce qu'on appelle la métaphore culturelle de la communication. Et comment est construite cette expérience de la communication dans les mondes latins. Aujourd'hui, on sait que l'informatique, les modèles de la poste ont un petit peu construit notre expérience de l'échange de communication. Donc, il y a des données qui passent d'un point A à un point B, qui sont transportées comme si on était, disons, face à un système postal. Donc, il y a un système qui est fils du 19e et du 20e siècle, bien évidemment. Et aujourd'hui, il est encore plus renforcé par l'informatique. Ici, lui, il analyse comment les Romains ont pensé la communication, l'expression des idées et la façon de métaboliser, de digérer certaines idées. Et c'est le lexique de l'alimentation. Tout le lexique de la communication passait par des métaphores qui avaient à faire avec l'alimentation, la cuisine et la digestion. Et je vous donnais aussi un exemple ici à droite. Vous voyez, pour dire, thinking on, donc réfléchir, véritablement comprendre, les mots latins, un des mots latins, c'était ruminare, qui signifie littéralement digérer, et qui vient de roumain, l'estomac. Donc ça, pour vous dire que étudier les métaphores de cette façon, ça signifie entrer véritablement dans une culture différente. Et on ne peut pas considérer ruminare un outil stylistique, parce que ruminare, c'était un terme partagé et répandu. Donc ça, c'est un peu le cadre dans lequel je voudrais placer ma recherche future. Et je vous donne donc là quelques exemples pour faire vite de comment j'ai procédé. Et voilà un des premiers textes que j'ai analysé. J'ai fait des recherches sur les mots « in ludere » et je suis parti de ces occurrences qui étaient d'une certaine façon le plus dénotatif possible, donc qu'ils ne donnaient pas trop d'espace à des niveaux symboliques trop complexes, parce que j'avais besoin de textes qui utilisaient ce mot d'une manière presque plate. Et vous voyez ici, on est dans le deuxième livre de Géorgique de Virgile. C'est un livre sur l'arboriculture, donc disons des conseils que les poètes, en tant que poètes didactiques, donnent sur la construction d'une culture d'arbres. Et une des premières cultures qui est prise en compte, c'est la viticulture. Et parmi le remède que les poètes conseillent, il y a la construction de barrières, donc la construction d'outils qui peuvent être végétaux ou aussi plus artificiels pour empêcher au bétail d'entrer dans la vigne et donc avec des conséquences terribles. Vous pouvez lire dans la traduction de Saint-Denis, il faut aussi tresser des haies et tenir enfermé tout le bétail, surtout quand le feuillage est tendre et ne prévoit pas les épreuves qui l'attendent. Donc il y a une construction de la feuille, de la vigne, du vignoble, qui est construite et présentée comme une sorte de créature qui n'a pas d'expérience à la vie. Donc vous voyez dans la suite qu'il est présenté comme une jeune fille. Et outre les temps rigoureux et les seuils tyranniques, les buffles sauvages et les chevreuils acharnés ne cessent de le maltraiter. Ici, vous voyez, Silvestres uri ad sidue capreque sequaces in ludunt. Donc, il y a un attaque de la part de certains animaux. Si vous pensez au mot Silvestres uri, c'est véritablement des termes qu'on trouve aussi lorsqu'il y a des descriptions de viol de la part des satyres, par exemple, envers des nymphes. Donc il y a tout un langage très construit qui présente la feuille de la vigne comme une jeune fille qui est agressée, qui est maltraitée et qui risque d'être donc violée d'une certaine façon par des agents naturels, donc par le bétail, etc. Et le mot qui est utilisé est « inludunt », donc le traducteur de Saint-Denis traduit comme « maltraité », mais on verra par la suite qu'on pourrait aussi aller plus loin et dire que c'est une sorte de... on pourrait aussi le traduire comme « le violé ». Donc vous voyez qu'il y a un terme « inludunt » qui est véritablement qui donne la perception d'une distance, parce que inludere ici n'a rien à faire, disons, avec le jeu, si on peut dire, mais l'est construit sur une racine qui est celle de ludere et de ludi qu'on a vu auparavant. Donc aussi à travers ces expériences, on peut véritablement, à mon avis, comprendre mieux le monde roman en passant par une sorte d'expérience dépaysante, si on veut. Et vous verrez que ce terme-là a donné aussi des problèmes de traduction, parce que normalement, un traducteur qui n'est pas intéressé à ces aspects de sémantique ou encore moins des aspects anthropologiques et culturels, il a tendance à traduire comme se moquer d'eux, donc en gardant cet aspect du ludere comme moquerie. Mais ici, c'est impossible, parce que dans ce texte-là, on ne peut pas faire entrer le jeu ou la moquerie dedans. Il faut vraiment aller sur le registre de la violence. Ce n'est pas la seule occurrence de ce mot. Virgile l'avait utilisé aussi avant. Et je vous montre aussi une autre tentative d'agression. Ici, il y a ce que Virgile appelle le pestes, donc les animaux qui peuvent endommager un camp. Et en particulier, je vous ai mis aussi l'image des taupes. Il dit « aut oculis capti federe cubilia tulpae ». Donc les taupes peuvent endommager, peuvent construire, federe, leur cubilia, leur chambre de nuit, on pourrait dire, et détruire donc le camp. Et je peux vous lire ici la traduction. « Je peux te citer de nombreux préceptes des anciens, si tu ne ressens pas de répugnance ni d'ennui à connaître des menus détails. L'air avant tout doit être aplani à l'aide d'un grand rouleau, retourné à la main et durci avec une craie tenace, pour que les herbes n'y poussent pas, que la sécheresse ne vienne pas à bout de la fendrier et qu'ensuite les fléaux de toutes sortes ne se jouent pas de toi. » Ici, il y a un problème, à mon avis, de traduction, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette traduction, parce qu'il y a ici une description d'un camp qui est attaqué. Donc, le traducteur, qui est le même de la traduction qu'on a vue avant, ici, introduit cette conception du fait que les agents atmosphériques se moqueraient de l'agriculteur, et donc pas comme moi je crois, en concevant cela comme une attaque au camp. Donc ce sont les pestes et les agents atmosphériques qui vont porter atteinte à l'intégrité du camp. Et donc inluderé ici a la même valeur que inluderé qu'on a vu avant. Mais ici, le traducteur choisit différemment. Et c'est un passage aussi très important parce que dans les commentaires de Servius, donc vous le connaissez, c'est un commentateur de Virgile qui vit à la moitié ou peut-être à la fin du 4e siècle après. Ici, Servius donne une glosse, donc il cherche à expliquer le mot inludere. Peut-être parce que c'était déjà compliqué à comprendre à son époque pourquoi Virgile utilise un mot qui a la racine de jouer ou d'un jeu. Et j'ai noté un petit peu la définition qu'il donne. Et il dit « inludere » c'est « perludum nocent ». Donc il dit que tous ces agents atmosphériques, ils endommagent « nocent » perludum, comme si rien n'était. Donc en construisant pas un projet de nuisance, donc d'endommagement, mais quand même il arrive à porter atteinte au camp. Et après, il utilise aussi le mot « sévire », qui est un autre verbe très connoté, qui signifie, « blessé », on pourrait traduire par « blessé ». Donc ici, à mon avis, le sujet, ou on peut même dire l'objet de la « inlusio », ce n'est pas l'agriculteur, mais c'est le camp, comme on a vu avant. Et là, ce sont des textes, plutôt faciles à traduire et à comprendre, mais un texte encore plus complexe, et c'est pour ça que je l'ai mis à la moitié de mon dossier. C'est un texte de Tacite, Les Annales, et ici c'est un passage plutôt fameux parce qu'on discute de la lutte pour le pouvoir entre Néron, qui est l'héritier désigné de Claude grâce à sa mère Agrippine la Jeune, et le fils naturel de Claude, de l'empereur Claude, qui est Britannicus. Et ici, il y a une situation de tension continue, parce que Claude vient de mourir, et Néron est acclamé et reconnu par les prétoriens comme l'empereur, mais il y a toujours à la cour ce fils naturel de Claude qui pourrait tout le temps prendre le pouvoir, parce qu'il est le dernier, rejeton de la dynastie julio-claudienne. Et comment est-ce que Tacite présente tout ça? Et il présente bien évidemment très négativement la figure de Néron, mais ce qui est important, c'est que vous savez que Britannicus meurt à cause de Néron par empoisonnement, donc il est empoisonné et pendant un banquet, il meurt. Mais la présentation qu'il donne Tacite, c'est comme si la mort de Britannicus était un soulagement. Et pourquoi cela a été un soulagement? Parce que Britannicus avait été plusieurs fois, maltraité, mais le mot utilisé, c'est « inlusum ». Et bien évidemment, cette expression-là renvoie à des viols, donc à des violences sexuelles qui avaient été perpétrées par Néron contre Britannicus et qui avaient détruit, l'image sociale de Britannicus. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un peu de temps pour lire le passage. Tacite nous dit « La plupart des historiens, on est à la moitié de la traduction française, la plupart des historiens du temps rapportent que, à maintes reprises, dans les jours qui précédèrent le trépas, Néron avait déshonoré l'enfance de Britannicus. Inlusum isse puritiae Britannici. Néronem, c'est le sujet à l'accusatif. En sorte que sa mort ne peut paraître prémature ni cruelle, quoique, à la table sacrée d'un festin, sans lui laisser même le temps d'embrasser ses sœurs, sous les yeux de son ennemi, on ait frappé à hâte ce dernier rejeton de Claude, qu'avant le poison, le stupre avait souillé. » Donc vous voyez, Tacite explique ce verbe « inludere ». Qu'est-ce que ça signifiait le « maltraiter » Après il dit « c'était pas la poison qui avait tué Britannicus, c'était plutôt... » l'atteinte à sa dignité de jeune homme. Parce qu'il faut savoir que Britannicus venait d'accomplir la 13e année, donc il entrait dans la 14e année, et donc l'année où à Rome on prenait la toga virilis, donc on entrait véritablement dans le monde des adultes. Donc vous voyez que là aussi, c'est très clair cet aspect de violence liée à ces termes. Je passe peut-être sur un autre passage des Métamorphoses d'Apulée où, encore une fois, il y a tout un jeu entre une, vieille sorcière qui s'appelle Méroé et qui se présente comme une jeune fille qui, dont l'honneur a été, disons, détruit par un autre personnage qui s'appelle Socrate. Et elle dit, moi je suis une jeune fille dont l'honneur a été complètement perdu à cause de ce Socrate qui est comme Ulysse, donc il m'a violé et après il est parti, comme Ulysse avait fait avec Calypso. Et dernier exemple, c'est un autre champ, disons, un peu analysé, c'est le verbe déludere, qui a la même sémantique et qui renvoie encore une fois à la séduction qui, disons, de quelqu'un qui viole une femme. Ici aussi, on est très souvent, on a tendance à traduire délusit, c'est un passage de Commodian, donc un auteur chrétien de la fin du IIIe siècle après. Et par séduire, mais là il faudra faire aussi un grand travail sulle traductions parce que bien évidemment ce sont des traductions des années 60, donc aussi la façon de présenter en français les mots latins, c'est disons que respecte certaines règles d'étiquette, disons, et de, aussi, je dirais aussi de pruderie. Et donc ici, Delusit, c'est la présentation de Jupiter, donc de Zeus, et l'auteur dit bien évidemment comme il est. Il est en train de détruire le polythéisme romain. Il a intérêt à détruire aussi l'image sociale et partagée de Jupiter, de Zeus. Et il dit qu'il avait la tendance à violer Delusit, non seulement les femmes des grands hommes, donc des rois et des princes, mais aussi ses propres sœurs. Donc vous voyez que ce n'est pas une question de séduction, c'est vraiment une question de viol et d'offense qui est portée avant qu'à la femme, à l'homme qui est le mari. Et voilà, donc je vous laisse avec des références bibliographiques et peut-être en expliquant juste en une minute et comment j'entends procéder. Et je crois qu'il faudra chercher, pour parler de métaphores culturelles, une certaine systématicité. Donc il faudra prendre en compte les autres mots que le monde romain utilise pour exprimer les viols et la violence sexuelle, donc violare en particulier, mais aussi le champ sémantique de stuprum, et voir s'il y a des rapports ou s'il y a aussi d'autres termes qui renvoient toujours à la sphère sémantique du ludus si ce mot-là exprime aussi de la violence. Ce que je fais maintenant, c'est de comparer avec le monde grec. Et d'après ce que j'ai pu constater, dans le monde grec, on n'a pas la même disons, métaphorisation. Le mot paizein, même si on choisit des calques linguistiques, para paizein, ou peri paizein, ou ek paizein, on a seulement cet aspect de la tromperie, de la moquerie, mais on n'a jamais la violence de type physique, et qu'on pourrait traduire par viol, exprimée en grec à travers le mot du jeu. Donc, il semblerait être une spécificité romaine et latine qui méritera une analyse et que j'espère de conduire dans les prochains mois. Je vous remercie beaucoup.